le dieu lui répond. Sur les monts glacés de l'Arcadie, une naïade célèbre était devenue la compagne des Arnadriades de Nonacris. Ses nymphes l'appelaient Syrinx. Plus d'une fois, elle avait échappé aux poursuites des satyres et des autres dieux qui habitent les bois touffus ou les campagnes fertiles de cette contrée. Vouée au culte de la déesse d'Ortigie, et par ses goûts et par sa chasteté, vêtue comme elle, les yeux trompés l'auraient prise pour la fille de Latone si son arc d'ivoire eût été d'or comme celui de la déesse. Et cependant, on s'y méprenait encore. Un jour qu'elle revenait du mont Lycée, le dieu Pan, qui hérisse sa tête de couronne de pin, l'aperçut et lui adressa ces paroles. Mercure allait les rapporter. Il allait dire comment la nymphe, insensible à ses prières, avait fui par des sentiers mal frayés jusqu'aux rives sablonneuses du paisible Ladon. Comment alors, arrêtée dans sa course par les eaux du fleuve, elle avait conjuré les naïades, ses sœurs, de la sauver par une métamorphose. Comment le dieu, croyant déjà saisir la nymphe, au lieu du corps de Syrinx, n'embrassa que des roseaux. Comment ces roseaux qui l'enflaient en soupirant du souffle de son haleine, rendirent un son léger, semblable à une voix plaintive. Comment, charmé du nouvel instrument et de sa douce harmonie, il s'écria « Je conserverai du moins ce moyen de m'entretenir avec toi. » Comment, enfin, unissant avec de la cire des roseaux d'inégale grandeur, il en forma l'instrument qui porta le nom de la nymphe. Mais au moment de faire ce récit, le dieu qui reçut le jour sur le mont Silène s'aperçoit qu'Argus, succombant au sommeil, a fermé tous ses yeux. Il cesse de parler, et les touchant de sa baguette puissante, il appesantit encore les pavots dont ils sont chargés. Soudain, de son glaive recourbé, il abat la tête inclinée du monstre à l'endroit où elle se joint au cou. Précipité du haut de la montagne, le tronc roule et souille en tombant la roche ensanglantée. Argus, te voilà gisant et sans vie. La lumière qui brillait dans tes regards s'est à jamais éteinte, et tes sans yeux sont couverts d'une éternelle nuit. Recueilli par la fille de Saturne et répandu sur le plumage de l'oiseau qui lui est consacré, ils éclatent comme des pierres précieuses sur sa queue étoilée. Cette nouvelle injure enflamme le courroux de Junon, et sans différer sa vengeance, elle jette l'image de l'horrible Érinis dans le cœur et devant les yeux de l'Argienne aimée de Jupiter, cache au fond de son âme l'aiguillon d'une aveugle fureur qui l'emporte épouvantée dans tout l'univers. Tu restais, ô Nil, comme dernier témoin de ces immenses fatigues. À peine arrivée sur les bords du fleuve, elle se laisse tomber à genoux sur l'arène. Son cou se penche en arrière, sa tête se dresse, et levant ses yeux vers le ciel, elle ne peut hélas y lever que ses yeux, par des soupirs, des larmes et des mugissements lamentables, elle semble se plaindre de Jupiter et lui demander la fin de ses maux. Le dieu, pressant alors dans ses bras sa compagne, la conjure de mettre enfin un terme à sa vengeance. « Bannissez toute crainte pour l'avenir, dit-il, Io ne sera plus pour vous un sujet de douleur. » Il le jure, et il commande au Styx d'entendre ce serment. La colère de Junon s'apaise. Soudain, la nymphe reprend sa forme première et redevient ce qu'elle fut autrefois. Son poil s'efface, ses cornes disparaissent, l'orbite de ses yeux se rétrécit, sa bouche se resserre, ses épaules et ses mains renaissent, la corne de ses pieds s'allonge en 5 ongles distincts. Il ne lui reste enfin de la génisse que son éclatante blancheur. La nymphe se redresse sur ses 2 pieds qui suffisent pour la porter, mais elle n'ose parler encore, dans la crainte de mugir comme une génisse, et sa bouche timide, comme pour s'essayer à la parole, ne fait entendre que des mots entrecoupés.